Suivez Priorité Santé avec Sunou Assurance. Notre métier, l'assurance, et Sunou Banque avec vous à chaque étape.
Priorité Santé, Caroline Paré.
Bonjour à toutes et à tous. Certaines de nos habitudes et certaines de nos décisions peuvent jouer un rôle majeur sur notre santé. Et si un conseil vaut pour chacun, chacune, sans nuance ni réserve, c'est bien celui d'arrêter de fumer. Mais au-delà de cette recommandation de bon sens et de bonne santé, se pose la question du comment ? Quelle méthode pour en finir avec la cigarette ? Comment supporter la privation, les tentations ? Et surtout, comment ne pas flancher, se remettre à fumer lorsque l'on pense être sorti d'affaire ? Parce que c'est vrai, arrêter de fumer, ce n'est pas, comme le pensent encore certains, une simple question de volonté pour passer des paroles aux actes. C'est un parcours qui peut être complexe et l'aide d'un soignant peut vraiment changer la donne pour comprendre le niveau de dépendance, cerner certaines vulnérabilités, bien prendre conscience des bienfaits de l'arrêt du tabac, bref, se donner les moyens d'arrêter en pleine connaissance de cause. Alors, si vous souhaitez arrêter, si vous avez des difficultés, si vous avez réussi à tourner la page durablement, vous pouvez nous appeler, témoigner, 33 7 61 18 46 41. Vos questions en direct dans Priorité Santé. Plus de 8 millions de décès dans le monde attribués au tabac. Plus d'une vingtaine de maladies directement associées à la consommation de cigarettes. Une dépendance et des conseils pour y mettre fin. On en parle avec vous à l'occasion du mois sans tabac. Docteur Romain Gomet, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes médecin addictologue à l'hôpital Albert Chenevrier de Créteil en région parisienne et administrateur de la Fédération Addiction. On va retrouver tout à l'heure en ligne de la Mauritanie le docteur Abdallah Jeilani. Il est médecin pneumologue, tabacologue au Centre national de cardiologie de Nouakchott. Et puis en fin d'émission, on va donner la parole à une journaliste santé du Congo. C'est la lauréate de la bourse Ghislaine Dupont et Claude Verlon 2024. Son nom, Victoire Andrène Ombi, actuellement animatrice sur l'antenne de la radio Mucodec à Brazzaville.
Priorité santé sur RFI.
Alors ce mois sans tabac, c'est bien sûr l'occasion de parler des conséquences du tabac pour la santé, mais surtout de l'intérêt, de la motivation, des conseils pour essayer, réussir à arrêter de fumer. Et celles et ceux qui sont passés par là, comme les médecins qui suivent les personnes dépendantes à la cigarette le savent, arrêter de fumer, c'est pas si facile que ça, loin de là, parce que la cigarette, ça provoque parfois très rapidement une dépendance très puissante. Alors docteur Romain Gomet, qu'est-ce qui rend accro dans le tabac ?
Alors dans la cigarette, c'est la nicotine. C'est le produit le plus addictogène devant les opiacés comme l'héroïne, devant le crack ou la cocaïne. C'est vraiment le produit addictogène par excellence.
Donc dans la plupart des pays, la cigarette c'est légal, mais c'est bien plus, on va dire, à certains égards, dangereux que des drogues complètement illicites.
Alors si on regarde en termes d'impact de santé, oui, la cigarette, c'est le premier facteur de risque évitable en France, devant l'alcool, devant les drogues, qui sont malgré tout moins prévalentes.
Alors chacun, chacune est dépendant à sa manière. Comment on évalue justement cette dépendance ?
Alors déjà, savoir que la grande majorité des fumeurs sont dépendants à la nicotine. En France, pour les chiffres qui sont liés à la France, il y a 16 millions de personnes qui consomment au moins une cigarette par an. Sur ces 16 millions, il y a 13 millions de personnes qui consomment tous les jours, qui fument tous les jours. Donc la grande majorité...
Le fumeur très occasionnel de la soirée qui va s'en griller une petite, comme on dit, c'est vraiment très rare.
C'est très rare. Mmh. C'est clairement pas la majorité des gens. Mmh. Alors après, pour évaluer, il y a un test qui s'appelle le test de Fagerström, qui est en 5 questions. Parmi ces 5 questions, il y a 2 questions qui sont plus importantes peut-être que les autres. Que sont le nombre de cigarettes par jour, qui montre un peu à quel rythme on a besoin de fumer pour maintenir le taux de nicotine au-dessus du seuil que notre corps réclame. Et une des questions principales, c'est aussi le temps qu'on va mettre à fumer la première cigarette le matin, parce que la nuit, ce taux de nicotine va s'effondrer. Et si on a besoin de fumer immédiatement, c'est probablement qu'on est plus dépendant que quelqu'un qui va pouvoir attendre une ou deux heures avec ce taux de nicotine quasiment à zéro.
Certains abstinents du tabac qui arrêtent la cigarette, ils parviennent dès, on va dire, la première fois, en 2-3 semaines, on va dire, ils pensent déjà à autre chose. Pour d'autres, c'est vraiment un parcours du combattant. Qu'est-ce qui va déterminer cette vulnérabilité, docteur Gomet ?
Alors, au-delà de ce produit qui est extrêmement addictogène, qui est la nicotine, il y a d'autres choses qui vont jouer. L'addiction, c'est multifactoriel. Il va y avoir il y a la question de l'environnement qui joue forcément. Selon notre parcours, on n'est pas tous égaux. Selon on est entouré, notre entourage, les gens s'y fument autour de nous, si on a été habitué à grandir avec cette cigarette. Et au-delà de cet environnement, il y a aussi des questions qui sont individuelles. Nos fragilités psychologiques et aussi une part qui est liée sur les questions neuro-cérébrales. Mmh. On n'a pas tous le même cerveau, on n'a pas tous la même fragilité par rapport à l'addiction. Et c'est une fragilité qui est héréditaire. Donc peut-être aussi que si on a beaucoup de gens qui ont eu des problèmes d'addiction dans la famille, on est un peu plus fragile qu'un autre.
C'est un parcours personnel, c'est un choix personnel. Est-ce que vous diriez qu'il faut en fait avoir pensé, réfléchi, cheminé dans sa tête pour comprendre pourquoi je dois arrêter de fumer, pourquoi je veux arrêter de fumer, faire le lien entre les deux, du doigt à vœu?
Je pense que oui, effectivement, c'est très important. En tout cas, pour que le changement puisse être durable, il faut le vouloir intrinsèquement. La motivation, on décrit deux types de motivation. La motivation qui est extrinsèque, qui est due aux autres. Alors, mon médecin m'a conseillé d'arrêter de fumer. Mon épouse souhaite ardemment que j'arrête de fumer. J'ai des soucis de santé. Ça, c'est des motivations extrinsèques. Et ce qui va être vraiment dur... Alors ça peut entraîner un changement, mais qui peut très vite s'émousser. Ce qui va être plus durable, c'est d'avoir une vraie motivation intrinsèque, c'est-à-dire être convaincu que c'est la meilleure solution pour nous et que c'est vraiment notre choix, notre volonté.
On ne peut pas passer à côté, parler des maladies liées au tabac. Bien évidemment, ce n'est pas toujours la première motivation. On n'arrête pas quelque chose parce qu'on a peur de mourir, parce qu'il y a d'autres motivations avant ça. Mais quand même, il peut y avoir un impact énorme sur la santé à de très nombreux niveaux. On pense directement santé respiratoire. Mais je sais qu'un certain nombre d'auditeurs sont très attentifs à ça, aussi sur la santé sexuelle, aussi sur l'essoufflement. Donc, ça veut dire, quand on protège sa santé, quand on arrête de fumer, ça veut dire qu'on évite un certain nombre de maladies qui peuvent être potentiellement très graves.
Exactement. Le tabac, c'est le deuxième facteur, en tout cas pour ce qui est de la France, c'est le deuxième facteur de risque après l'obésité. Et c'est le premier facteur de risque qu'on juge évitable, parce que l'obésité n'est pas forcément toujours évitable. Parce que le tabac provoque énormément de maladies. Parce que dans votre cigarette, il y a la nicotine qui est addictive, mais qui n'est pas dangereuse. Mais à côté de ça, il y a des goudrons, il y a beaucoup d'autres produits qui sont très dangereux. Et qui a par exemple 70 cancérigènes primaires.
Des métaux lourds, etc.
Des métaux lourds. Et tous ces produits donc, vont avoir un impact majeur en termes de santé. Vous parliez de plusieurs millions à travers le monde de personnes qui décèdent de ça. En France, on a 79 000 morts par an. C'est un chiffre qui est énorme. Donc oui, le tabac est un facteur de risque de nombreuses maladies. Vous parliez de l'essoufflement, des maladies pulmonaires, mais il y a aussi de la santé, des problèmes cardiaques. Mais il y a aussi la santé cardiaque. Il y a aussi les très nombreux cancers. Le tabac, c'est un facteur de risque de la grande majorité des cancers.
Alors, il y a aussi en consultation ce qui touche peut-être aux conséquences pour l'entourage du fumeur. Est-ce que, par exemple, quand on parle d'addiction, il y a des personnes qui vivent avec des fumeurs qui viennent vous voir parce qu'ils ont aussi le sentiment de subir par contre-coup cela, ou est-ce que c'est directement toujours le patient fumeur qui vient vous voir?
Alors nous, en consultation, on voit essentiellement les patients. Ils sont régulièrement, malgré tout, envoyés, poussés par leur entourage. Les entourages, pour le tabac, on n'en voit pas tant que ça. Mais c'est sûr que c'est une question qui est importante à la maison et ça peut avoir vraiment un impact sur la famille.
Alors, le tabagisme passif sur WhatsApp, Marie-Cécile du Sénégal écrit « Mon patron est un gros fumeur de cigares. Il fume dans son bureau, j'y rentre plus de 10 fois par jour, j'y reste parfois de longues minutes. Je ne supporte pas du tout la fumée, ça me fait tousser à chaque fois. Elle demande si le cigare est aussi nocif que la cigarette. Elle voudrait savoir si elle encourt des risques en tant que fumeuse passive. »
Alors, déjà, le risque en tant que fumeur passif, quel que soit le mode de consommation du tabac, il existe. Il est difficile à évaluer. A priori, elle ne vit malgré tout pas avec ce monsieur qui fume dans son bureau. Donc je pense qu'elle peut malgré tout être un peu rassurée. Mais c'est vrai que vivre avec un fumeur et vivre dans la fumée, c'est pas une très bonne idée pour la santé. La différence entre le cigare et la cigarette, pour les fumeurs passifs, je suis pas sûr qu'il y en ait. Pour les fumeurs actifs, pour le coup, ce n'est pas tout à fait les mêmes pathologies. Le cigare, on n'aspire pas toujours la fumée. On est plus à risque, par exemple, d'avoir des cancers de la bouche ou des voies ORL. Alors que la cigarette, on va plus vite avoir des cancers des poumons.
Alors, Mahamat Djamena, lui aussi, il est préoccupé par des sujets à ses voisins. Il a constaté que quand il joue au football, il s'essouffle plus vite. Auparavant, c'était une heure de jeu sans fatigue. Il ne fume pas, mais certains de ses amis qu'il côtoie, oui, voudraient savoir si le fait d'être exposé à cette fumée, ça pourrait être cause de cette fatigue accrue. Peut-être lui conseiller de consulter quand même, parce que s'il s'essouffle alors qu'il ne fume pas et qu'il joue au foot, c'est peut-être autre chose. C'est pas forcément que le tabagisme passif.
Alors oui, je pense que déjà, bon, le tabagisme passif peut avoir un impact, mais au vu de ce qui est décrit, il faut quand même consulter pour aller éliminer autre chose.
Alors, on va prendre un auditeur en direct tout de suite. Pour ça, on va partir pour le Cameroun, la ville de Bimébi. C'est là qu'on retrouve Ibrahim. Ibrahim, bonjour.
Oui, bonjour Caroline. Bonjour docteur.
Bonjour.
Alors, vous êtes âgé de 31 ans, vous fumez depuis combien d'années ?
Ça fait depuis 2014.
2014, 10 ans déjà, depuis que vous avez environ 20 ans. Et bon, petit questionnaire, hein, combien de cigarettes chaque jour ?
Je fumais avant au moins 3 à 4 paquets, mais actuellement je suis à 2 paquets de 10 bâtons.
10 bâtons, donc c'est par 10 chez vous, donc 2 paquets, 20 cigarettes. Mais avant, vous étiez quasiment à 40 cigarettes par jour, c'est absolument énorme.
Exactement.
Ouais. Parfois, est-ce que vous fumez plus ? Est-ce qu'il y a des facteurs qui vous poussent à plus ou moins consommer de cigarettes ?
Oui, pendant le mois de Ramadan, par exemple, oui. Le 30 jours, je ne fume pas du tout la cigarette. Mais dès que j'ai fini le Ramadan, je recommence sur le champ.
Qu'est-ce qui vous permet de tenir pendant le Ramadan, justement, de passer du jour au lendemain de Ibrahim fumeur à Ibrahim non fumeur ?
C'est la foi.
La foi. Et la foi, elle s'arrête à la fin du mois du Ramadan ou pas ? Je vous titille un peu, mais excusez-moi, là, c'est la santé et la foi qui parlent en même temps. Je vous pose cette question parce que finalement, vous en avez de la volonté. Comment est-ce que ça se fait ? Qu'est-ce qui vous manque, vous, en tant que personne, en tant qu'Ibrahim, pour ne pas poursuivre cet effort énorme que vous avez déjà réussi à faire pendant le mois du Ramadan ?
Bon, c'est-à-dire que pendant le mois de Ramadan, vous savez que c'est un mois sacré, tu es toujours à la maison, tu ne sors pas du tout, tu es calme. Mais dès que le Ramadan finit, bon, le fait de côtoiser les amis, ouais. J'ai presque 30% de mes amis sont des fumeurs. Donc, des fois même après le Ramadan, je fume une semaine sans fumer, mais le fait de rester parmi les amis, c'est ça qui me pousse encore à prendre un bâton. Deux bâtons et je reviens encore comme d'habitude.
C'est l'effet d'entraînement avec la vie sociale, etc. Est-ce que vous avez déjà entendu parler, Ibrahim, des produits de substitution au tabac, les patchs, les gommes, etc.
Oui.
Est-ce que vous avez essayé ?
Non, jamais.
Pourquoi ?
Il n'y a pas les moyens.
Il n'y a pas les moyens. Ça coûte combien, les cigarettes ? Ces deux paquets, enfin, ces 20 cigarettes que vous fumez chaque jour, vous trouvez l'argent pour payer ? Est-ce que c'est quelque chose qui est cher ?
Un paquet coûte 250 francs.
Ouais. Et vous pouvez nous donner une idée, les substituts, ça vous coûterait combien ?
C'est vraiment énorme.
C'est plus ?
C'est très énorme.
C'est très cher. Alors Ibrahim, votre question à notre spécialiste qui vous écoute. Allez-y, je vous en prie.
Ok, j'aimerais qu'il me donne un peu de conseils. Comment est-ce que je dois arrêter de fumer ? Parce que j'en ai déjà marre. Ça m'étouffe, ça me bloque beaucoup de choses que j'ai envie de faire. Voilà, tout récemment, je voulais même entrer dans l'armée, mais mon souffle ne me permet pas maintenant. Même si avant, je pouvais même juste quand même courir 2 tours de terrain de football, mais actuellement, je n'arrive même pas à le faire.
On entend Ibrahim hein, qui est vraiment partagé. D'un côté, il est très motivé quand il est isolé, ce qu'on peut comprendre. Et puis, quand il retourne avec les amis, c'est la rechute systématique.
Oui, alors ça c'est assez classique, il y a cet effet d'entraînement. Alors je peux pas vous conseiller de ne plus voir vos amis, mais peut-être qu'il y a des moments déjà où on peut quand ils partent en pause, faire la pause cigarette, peut-être que c'est l'opportunité de rester avec les autres, les non-fumeurs, parce que vous disiez que quand même ce ne sont pas tous vos amis qui fument. Alors ça déjà c'est pour la question de l'entourage. Après, alors, j'entends que les substituts nicotiniques sont plus chers que le tabac, Nous, on a la chance en France que ce ne soit pas le cas. Donc, j'entends que c'est pas facile, mais il faut peut-être voir ça comme un investissement. Parce que, imaginons qu'en 5, 6 mois de substitut, vous arriviez à arrêter de fumer. Par rapport à des années de consommation du tabac, peut-être que même financièrement, ce serait une bonne opération, au-delà de l'opération santé qui est très importante, parce que vous le dites, ça vous impacte sportivement, ça impacte même votre projet professionnel. Donc ça peut être quand même une solution. Et sinon, bah, des alternatives à ça, on peut essayer déjà des choses qui sont pas médicamenteuses. Il y a la volonté, vous l'avez, donc vous arrivez des fois à tenir, associer ça peut-être à des méthodes de relaxation, de sophrologie, de pleine conscience, utiliser d'autres types de substituts quand vous avez envie de fumer, peut-être prendre, je ne sais pas, ne serait-ce qu'une sucette, c'est avoir quelque chose dans la bouche ou un bonbon, même si ce n'est pas les substituts nicotiniques qui sont sûrement plus chers. Bon, après, le but, ce n'est pas non plus de manger des sucreries à longueur de journée au risque de développer un diabète, évidemment. Et puis le sport, vous le disiez, le sport, ça peut être vous le souhaitez, ça pourrait être un bon substitut, ça pourrait valoriser aussi l'arrêt du tabac. Aller se défouler régulièrement en faisant du sport, petit à petit le souffle reviendrait, ça serait très valorisant pour votre arrêt. Et si vous n'arrivez pas à arrêter, déjà au moins dans un premier temps diminuer, et puis de proche en proche, peut-être ne pas s'imposer un arrêt brutal dans ce cas-là si vous n'y arrivez pas, et plutôt aller faire une diminution progressive en diminuant les doses petit à petit. Ou se servir du prochain ramadan pour rebondir.
En retardant la première cigarette d'heure en heure.
Retarder les cigarettes, effectivement, les repousser, trouver qu'on a envie d'essayer de tenir un peu plus longtemps chaque jour.
Voilà pour tous ces conseils. Bon courage en tout cas à vous, Ibrahim. Bon courage. On part maintenant pour la Côte d'Ivoire.
RFI à Abidjan. 97.6 FM.
C'est Monique qui nous a adressé ce message sur le répondeur WhatsApp de Priorité Santé. Une auditrice qui est préoccupée par la santé de ses parents. On l'écoute.
Bonjour Priorité Santé, c'est Monique d'Abidjan. J'ai perdu mon père à cause du tabac. Il a commencé à fumer à l'âge de 15 ans. Il est décédé à l'âge de 65 ans. Je le voyais fumer en moyenne 2 paquets de cigarettes par jour. Les premiers signes se sont annoncés 6 mois avant son décès. Il a commencé à maigrir considérablement. Quand on a pris chez le neurologue, il a signifié qu'il s'agissait d'une souffrance pulmonaire et qu'il avait une fonte musculaire liée à cela. 6 mois après, il a eu une infection pulmonaire et 1 mois d'hospitalisation, il est décédé. Ma préoccupation aujourd'hui est que ma mère également fume. Elle n'a pas pu arrêter de fumer après mon père. Tout l'effort qu'elle a pu effectuer était de passer à la cigarette électronique. Elle a fumé à partir de l'âge de 17 ans. Aujourd'hui, elle a 60 ans. Elle fume en moyenne 1 paquet par jour. J'aimerais savoir si la cigarette électronique est nocive ou est-ce que c'est le moindre mal comparé à la cigarette normale. Ma deuxième préoccupation est que mon conjoint fume la chicha en moyenne 3 fois par semaine pour une durée de 1h30. J'aimerais savoir quel est le taux de nocivité également. Merci à vous.
Alors, deux questions de Monique sur, on va dire, deux alternatives ou deux autres produits du tabac. D'abord, la cigarette électronique. Qu'est-ce que vous pouvez lui répondre, docteur Romain Gomain ?
Alors, la cigarette électronique, à l'heure actuelle, à ma connaissance, il n'y a aucune étude qui a trouver une nocivité. Ça a été interdit dans certains pays où elle était mésusée, on rajoutait dedans de l'huile de cannabis. Mais en dehors de ça, sur une utilisation normale de la cigarette électronique, actuellement, on n'a pas trop de sources d'inquiétude. Après, on n'a pas un recul monstrueux non plus en nombre d'années. Je ne peux pas dire que dans plusieurs années, il n'y aura pas un impact qui va être décrit. On a quand même énormément de mal à imaginer que ça puisse être aussi nocif que le tabac.
Alors, donc, l'autre question sur le narguilé ou la chicha ?
Alors, le narguilé et la chicha, pas quelqu'un qui consomme tous les jours, mais pour autant, 1h30 de narguilé, c'est énormément de tabac qui passe.
Surtout très fréquemment, quand même, 3 fois par semaine, c'est pas mal quand même.
Oui, tout à fait. C'est l'équivalent de plusieurs paquets à chaque fois. Donc effectivement, c'est nocif. Hein. C'est une habitude qui est. Vu qu'il ne fume pas tous les jours, j'imagine qu'il y a plus de l'habitude que de la dépendance. Donc, c'est peut-être plus simple de s'en priver ou en tout cas de diminuer au moins la durée d'exposition.
En tout cas, les personnes qui pensent que comme il n'y a pas de fumée, cette fumée qui sort du tabac, de la combustion, c'est moins nocif, c'est une fausse idée, c'est une fausse croyance.
Pour ce qui est de la chicha, oui, c'est une fausse croyance.
C'est une fausse croyance. On va poursuivre cet échange, docteur Romain Gomet. On va aller donner la parole à l'un de vos confrères en Mauritanie. Ce sera juste après ce titre d'Anaïs Mva, Addiction, dans Priorité Santé sur RFI.
Depuis que je suis jeune, j'ai toujours eu une attirance pour ce qui me tue. Fumer de cigarettes dans la rue, inconnu ralenti, j'en veux plus. Pourquoi ce qui dégoûte repousse m'attire, naturellement vulnérable à l'emprise. Prédisposition à l'addiction, ils t'ont donné un joli prénom. Quel joli démon, ton déguisement te va si bien jusqu'à ce qu'il tombe. Quel genre de paradis mène à la tombe. Quel genre de paradis mène à la tombe. Mais toi d'ailleurs, pourquoi tu bois trop de liqueur, où tu te noies, océan où personne nage droit. Refais-le au prisme, éclaire-moi. C'est drôle comme ivre et bonheur s'aligne. Pas étonnant qu'on le cherche aux unis. Prédisposition à l'addiction, ils t'ont donné un joli prénom. Quel joli démon, ton déguisement te va si bien jusqu'à ce qu'il tombe. De paradis mène à la tombe. Quel genre de paradis mène à la tombe.
Novembre, mois sans tabac dans Priorité Santé sur RFI. Comment arrêter de fumer, patch, gomme, cigarette électronique? Qu'est-ce qui fonctionne? Nous sommes toujours avec le docteur Romain Gomet, médecin addictologue à l'hôpital Albert Chenevrier de Créteil en région parisienne. Et les conséquences aussi quand on arrête de fumer. Témoignage de Rita du Cameroun sur WhatsApp. Après avoir arrêté de fumer, elle écrit qu'elle a pris 12 kilos en 6 mois, même si avant d'arrêter, elle faisait beaucoup de marche. Et elle demande s'il y a justement des activités sportives recommandées quand on est en consultation addiction. On dit bon, arrêtez de fumer. Est-ce qu'il y a aussi avec ça une série de recommandations sur le plan de l'activité physique?
Alors oui, c'est important de reprendre une activité physique, de profiter en fait de cet arrêt du tabac qui peut nous redonner un second souffle du coup, et du coup plus de capacité physique. Des activités qui peuvent être des activités un peu à but de renforcement cardiovasculaire, parle de la marche, oui, faire de la marche un peu plus sportive, c'est augmenter un peu le rythme petit à petit, la course à pied, du vélo, tout ça, ce sont plutôt des bonnes activités. Pour les auditeurs qui ont peur de la prise de poids, c'est vrai que là, 12 kilos en 6 mois, ça peut paraître beaucoup. En moyenne, il faut quand même se rappeler que c'est plutôt 3 kilos. Mmh. Alors pour ceux qui ont accès aux substituts nicotiniques, ça permet vraiment de diminuer le risque de prise de poids. Et il ne faut pas hésiter donc, à augmenter l'activité physique parce qu'on en a de plus en plus la capacité. En plus, ça valorise vraiment le combat contre le tabac. Et aussi à modifier un peu son régime alimentaire. Quand on arrête de fumer, on récupère le goût. Et du coup, on peut se permettre de manger avec un peu moins d'exhausteurs de goût que sont le gras, le sucre, le sel. On peut se permettre de manger un petit peu plus sainement. Si on associe tout ça, le sport, l'hygiène alimentaire, et si possible, les substituts nicotiniques, normalement, on ne prend pas trop de poids.
Alors, on va retourner en Côte d'Ivoire, à Boaké, où l'on retrouve Amadou. Amadou, bonjour. Amadou, vous êtes avec nous, bonjour.
Bonjour Caroline, bonjour docteur.
Bonjour Amadou.
Alors, vous avez 51 ans, combien d'années de consommation de tabac derrière vous?
Waouh. Alors, j'ai commencé à fumer en 85.
Ouais.
J'ai véritablement arrêté en février 2024, avec quelques arrêts sporadiques quand même que j'ai pu observer, notamment en 2019. Et puis aussi en 2022, ça a duré un an, 10 mois en général, pas plus.
Aujourd'hui, vous avez donc arrêté. Vous avez encore envie parfois dans des circonstances particulières?
J'ai l'envie, elle est quotidienne en vérité. Ouais. J'ai toujours envie, mais j'avoue qu'il y a des moments particuliers où je suis plus sensible. Je veux dire, il y a des habitudes, par exemple, que j'ai de rentrer, par exemple, dans un café, de me mettre sur une terrasse. Alors là, pour moi, c'est lié forcément, obligatoirement, à une cigarette, voilà. Et puis, bon, je suis très émotif. Il y a des gens comme ça. Quand j'ai une sensation particulière, oui, je rechute. Et en parenthèse, Caroline, j'ai arrêté de fumer la première fois parce que ma fille, elle m'a dit, papa, la cigarette tue, non? Donc, je dis juste que ce que le docteur a dit en début d'émission, qui est ses valeurs extrinsèques en prenant en compte, effectivement, ça joue beaucoup sur notre manière, finalement, d'apprécier, d'arrêter ou de ne pas arrêter. Mais moi, les envies, l'envie, je l'ai au quotidien. Et c'est justement ça mon inquiétude.
C'est ça votre inquiétude, parce que vous auriez envie de vous débarrasser de cette tentation permanente. Est-ce qu'il y a des trucs pour ça, docteur Romain Gomet? L'envie de fumer, on en rêve encore 20 ans après, je sais de quoi je parle. On rêve qu'on a cédé à une tentation, on a eu un coup de mou, on s'arrête au bureau de tabac et on se réveille, c'était pas vrai. Comment ça se fait que ça reste aussi longtemps dans le cerveau?
Alors ça, c'est les envies, ce qu'on appelle nous le craving. C'est des choses qui sont très individuelles. Tout le monde n'a pas le même rythme. Mais c'est vrai que les conditionnements, une fois qu'une addiction est ancrée, c'est vrai que c'est des choses qui ne disparaissent pas, ça reste enregistré dans le cerveau, mais malgré tout, les envies, ces pensées un peu qui reviennent fréquemment, elles vont avoir tendance, les mois passant, à diminuer. Mmh. Là où au début, ça peut être un peu comme une tempête, avec des envies qui sont très fortes, très intenses, très longues et très dures à supporter. Au fur et à mesure des mois, normalement, la mer devient de plus en plus calme et ce ne sont au bout d'un moment que des pensées qui nous traversent et c'est beaucoup plus facile à maîtriser. Surtout qu'on a l'expérience de tous les avantages qu'on a en arrêtant de fumer. Mmh. Donc on peut s'appuyer plus dessus à ce moment-là.
Excusez-moi, Amadou, vous en ressentez une certaine fierté de cet arrêt du tabac? Vous vous sentez, j'imagine, mieux, mais aussi content de vous d'avoir réussi?
Oui, parce que d'abord c'est lié à des problèmes de santé, c'est vrai, mais je me suis rendu compte que la thyroïdite, elle n'est pas forcément relative à la fumée, enfin à la cigarette en tout cas, mais oui, des fois, on s'est dit, je ne suis pas obligé de sortir en hiver, par exemple, pour fumer une cigarette, on a une petite fierté, mais il y a quelque chose, il y a ce réconfort que la cigarette apporte, que les non-fumeurs ne savent pas, mais que nous savons. Il y a cette odeur, il y a quelque chose forcément qui manque quand on arrête de fumer, surtout, on n'a pas la bonne manière, docteur, c'est brutal. On n'a pas utilisé de patch, on n'a pas utilisé de thérapie, on a arrêté brutalement, donc oui, on est très vulnérable, c'est vraiment très sensible, et il y a ce goût que vapoter ne remplace pas, Caroline, il y a ce goût, il y a cette odeur de cigarette qui est exceptionnelle.
Oui, parce que vous êtes en train de nous expliquer que c'est agréable, et c'est pas du tout idiot de le dire, parce qu'effectivement, on peut trouver ça extrêmement agréable. Mais néanmoins, je vous dirais, Amadou, vous pouvez être fier de vous, on vous félicite pour ce travail sur vous-même, parce que le matin, vous vous réveillez, vous n'avez pas la bouche pâteuse, vous n'avez pas les cheveux qui sentent le tabac, vous n'avez pas dépensé une fortune au bureau de tabac aussi, donc il y a aussi le pour et le contre à peser.
Oui, c'est vrai. Même si on est malheureux de ne pas pouvoir fumer une cigarette après une bonne rencontre où on a des gens en face qui fument et il y a un plaisir de fumer. C'est vrai qu'on compense par le fait qu'on se dise au moins on a la bonne santé, on souffre moins, on dépense moins, c'est vrai.
Et quelle compensation quand même, non? C'est pas mal. C'est pas mal quand même.
C'est pas mal.
Le docteur Gomet voulait ajouter quelque chose, je lui donne la parole.
Alors déjà, une première. Alors déjà, vous féliciter évidemment pour cet arrêt et ce que vous faites, alors oui, vous appuyez à chaque fois que vous avez envie de fumer, vous rappelez pourquoi vous avez arrêté de fumer et quels sont les bénéfices que vous avez. Après, je tenais à dire quelque chose par rapport au fait que vous dites que c'est soulageant. Il faut quand même savoir que le tabac, c'est anxiogène, c'est-à-dire que ça rend plus anxieux. Et ça, la plupart des fumeurs ne s'en rendent pas compte pendant qu'ils fument. Mais quand on arrête de fumer, on est moins anxieux, on est moins déprimé. Au moment du sevrage, c'est un petit peu plus dur. Mais après, l'effet sur le psychisme, il est très, très positif. Et ça, les échelles sont très claires là-dessus. Donc, il ne faut pas se dire qu'on fume par réconfort. On fume surtout parce qu'on est anxieux quand on est en manque. Mais si on a Une fois qu'on a arrêté de fumer, on n'a plus de manque et on est moins anxieux.
On vous remercie beaucoup, Amadou, pour votre témoignage. On part tout de suite pour la Mauritanie. On part tout de suite pour Nouakchott.
RFI à Nouakchott. 103.3 FM.
En ligne, docteur Abdallah Jeilani, bonjour.
Bonjour Caroline.
Vous êtes médecin pneumologue tabacologue au Centre national de cardiologie de Nouakchott. Est-ce que vous avez des chiffres, des données sur la consommation de tabac dans votre pays, la Mauritanie ?
Alors, si on parle de tabagisme en Mauritanie, on sait bien que les dernières années que le tabagisme a bien reculé, à peu près de 10%, pardon, selon l'estimation de l'OMS et aussi les chiffres du ministère de la Santé. On sait bien que ça reste toujours un phénomène qui est répandu chez toute la population. On sait bien que les hommes qui fument de plus en plus et aussi les femmes, et en plus c'est l'augmentation des jeunes fumeurs, notamment chez les adolescents de l'âge entre 13 et 15 ans à peu près, qui est estimé à 22%. Donc on est toujours sur un phénomène qui est bien répandu et malheureusement on n'a pas pu réduire de façon significative cet afflux de tabagisme dans la société, malheureusement.
Dans votre consultation, quand les patients viennent avec l'envie d'arrêter de fumer, ce sont quoi les principaux motifs qu'ils avancent ? Pourquoi ils veulent arrêter ?
Alors, rarement, en fait, je reçois des patients dont le motif principal, c'est le sevrage tabagique. En général, quand on reçoit les patients qui sont adressés par mes confrères, c'est beaucoup plus pour la prise en charge d'une pathologie respiratoire dont le tabagisme qui fait la cause.
Ça veut dire que ça va être un conseil associé à la prise en charge de la maladie ?
Exactement. On reçoit beaucoup de patients dont le tabagisme qui a fait son effet soit sur les bronches ou sinon sur le parenchyme du poumon. Je parle également de la bronchopneumopathie chronique obstructive qu'on appelle la BPCO ou sinon des maladies tumorales, notamment le cancer des poumons. Donc ça peut également le tabagisme dans notre contexte mauritanien aggraver ou sinon exacerber une pathologie existante comme l'asthme ou sinon les dilatations des bronches qui peuvent être séquelaires à des pathologies anciennes comme la tuberculose. Donc rarement on reçoit ce patient dont le motif principal c'est le sevrage tabagique, mais en plus ça reste toujours l'occasion de discuter avec les patients sur leur mode de vie et voir que si ils ont l'envie. En général, la plupart de nos patients, ils ont cette envie d'arrêter de fumer, mais que malheureusement ils ont pas, ils ne savent pas comment. Ils sont un peu perturbés, surtout qu'on le propose ou qu'on le parle de tabagisme.
Alors justement, on a entendu pas mal d'auditeurs jusque-là ne pas avoir accès ou ne pas avoir les moyens d'aller vers un sevrage tabagique avec des produits de substitution. Est-ce que ces substituts du tabac, patch de nicotine, gomme, c'est disponible en Mauritanie ? Est-ce que c'est connu du grand public ?
Alors, c'est vrai que nous, jusqu'à ce jour, on n'a pas les moyens qu'il faut. Je parle des moyens pharmacologiques pour aider nos patients pour arrêter de fumer. On joue beaucoup plus sur le comportement, les dispositifs ou sinon les substituts nicotiniques, malheureusement, ne sont pas bien disponibles et sinon, ne sont pas aussi pris en charge par notre régime social. Et ça rend très difficile, en fait, pour prescrire un patch nicotinique qui peut coûter jusqu'à 50 euros, parfois 60 euros. C'est vrai qu'en France, ils ont la chance que c'est bien pris en charge par la sécurité sociale, mais que malheureusement, ce n'est pas le cas. Donc, on joue beaucoup plus sur le comportement. On essaie toujours de parler avec les patients, de parler du méfait du tabagisme. On ressent toujours cette volonté pour arrêter, mais en plus, c'est toujours l'occasion de revoir le patient plusieurs fois, de rediscuter de nouveau du tabagisme et également d'essayer d'établir un plan d'action.
Alors, excusez-moi, là, c'est le mois sans tabac. Est-ce que, dernière question, il y a aussi des campagnes de sensibilisation, d'information, de santé publique ?
Alors, il y a toujours en fait la volonté de ministère qui de faire des campagnes de sensibilisation. À mon avis, on peut faire plus, puisque on sait bien que plus la population est sensibilisée contre les méfaits des tabacs, il y aura moins, ça peut jouer en fait sur les fumeurs et également de baisser ou sinon d'arrêter leur consommation. Alors on peut faire plus et il y a aussi pas uniquement la sensibilisation, moi je trouve à mon avis, parce que il y a beaucoup plus sur la loi de anti-tabac qui n'est pas encore appliquée comme il faut dans nos pays. Je parle également de prix de tabac qui reste toujours accessible à tout le monde. On a les prix qui n'a pas été révisé depuis plusieurs années. On sait bien que
ça veut dire qu'on peut encore jouer sur plusieurs leviers au niveau des décisions officielles pour limiter cet accès au tabac. On vous remercie infiniment. Très très bonne journée à vous, à Nouakchott, docteur. On se retrouve pour justement conclure notre échange, docteur Romain Gomet. On a bien compris que la situation est très différente en fonction de la solidité des systèmes de santé, de soins, voire même des patchs complètement inaccessibles, véritable luxe, voire il n'y en a carrément pas à la pharmacie. Pourtant, ça marche. Alors c'est peut-être aussi un message à diffuser à ceux qui fabriquent ces patchs, à ceux qui les importent, aux autorités de santé, pour justement s'intéresser à ces substituts qui sont loin de là, ce ne sont pas des gadgets de santé.
Non, les substituts nicotiniques, c'est un des meilleurs traitements qu'on a en addictologie. C'est un des plus efficaces et c'est vrai que c'est vraiment dommage d'entendre que c'est si inabordable dans d'autres pays, parce qu'en termes de santé publique, en termes de santé publique, c'est un vrai atout et ça pourrait permettre de diminuer énormément les autres dépenses de santé si ces produits étaient plus accessibles.
Alors pour celles et ceux qui ont déjà essayé, qui ont rechuté, qu'est-ce qu'on peut leur dire au niveau motivation pour dire retentez votre chance, et même si vous n'avez pas encore tous les éléments en tête, allez consulter et essayer un de ces patchs justement ou substitut gomme si c'est accessible.
Alors rechuter, c'est des choses déjà qui sont assez classiques dans les addictions.
Donc, c'est pas un échec.
Il ne faut pas le considérer comme un échec. C'était une première étape vers l'abstinence plus longue plus tard. Parfois, si ça ne fonctionne pas, c'est peut-être parce que les substituts nicotiniques, on les a arrêtés justement trop tôt. Les études montrent qu'il faut au moins les garder à dose stable 6 mois. C'est rare que les gens les gardent si longtemps. Ils estiment que le problème est réglé et ils les enlèvent. Entre 6 et 8 mois, il faut les garder avant de commencer à diminuer très progressivement. Donc si on en a les moyens, évidemment. Et parfois, les gens sont sous-dosés en nicotine. Il ne faut pas hésiter à avoir un professionnel qui pourra mettre les doses suffisantes.
Trouvez la bonne consultation. Un grand merci à vous, docteur Romain Gomet. Merci pour toutes ces explications, ces réponses à nos auditeurs. On va donner la parole dans quelques instants à une jeune journaliste passionnée par la santé. Ce sera juste après Kiss Daniel, le son du Nigeria dans Priorité Santé avec Marabar.
En coque, lève-vous. Just a little bit of alcohol, a little bit of cigarette. I'm already singing bird, I'm already continental, international. I'm killing it, you know, I put the fire. Now maybe the follow come, couple up or solo one. Pressure no fi catch you, fully loaded cash. When you see me coming, they say with the body, oh loud, oh loud, oh loud, oh loud. You want to tend to be bad, oh lori bu, ko lo vado. Tori mo kula mo kuta, ko je kuta mo mo lepa. But I'm already crazy. Black on black, Elea. Mashi back on Shelea. Energy like a star. Samzi like a bastard. The Fulani like Shokoto. Podjali called Jekoto. Okala kwe marapa. Atiya kwe Taliban. They have with so many boys like they know and brother Timini. What up Timini? What you do infinity? Yeah, I can line water, Jacob, Jacob, Sima down. I'm orthopedic, you need to light a big up and your back. Only the leg of the law, I see no be on boy. I'm already calling another. I shall woo boy, Percocet, go down there, gobble it, oink, oink. Me,
no like person where they talk bad about person where you know, cause other person go they talk bad about you and you know no. I don't like person where they f*** with too much people, lolo show. Now them go who buy all my time from here to there, I prefer them for.
Bottom, money they crazy. Bottom, money they crazy.
Découvrir les talents de demain. On revient maintenant sur le parcours de celle qui a remporté il y a un peu plus de deux semaines la bourse Ghislaine Dupont-Claude Verlon 2024 dans la catégorie journaliste. La lauréate s'appelle Victoire Andrène Ombi. Elle exerce à Radio Mucodec en République du Congo. Et si nous lui donnons la parole aujourd'hui dans Priorité Santé, c'est parce que eh bien, vous êtes une passionnée d'info santé. Victoire Andrène Ombi, bonjour.
Au centre. Bonjour Caroline.
Bonjour, alors vous êtes en ligne de Brazzaville. Avant d'échanger avec vous, si vous le permettez, on va écouter un extrait de ce reportage gagnant qui a été tourné au Bénin, consacré à la thérapie par la danse. Extrait.
Au centre chorégraphique multicorps du boulevard de France à Cotonou, Vincent danse au rythme de la cora. En fauteuil roulant, cigarette à la main, il a perdu sa mobilité après un accident de voiture. Grâce à la danse, il a pu sortir d'une profonde dépression.
Le fait de travailler sur la danse, ça m'a obligé à faire un travail sur moi-même, de réconciliation envers mon corps, de redécouvrir que ce corps non seulement était capable de me donner des sensations, y compris des sensations de mouvement, mais également, ce qui a été une découverte fondamentale, c'est qu'à travers ce corps, je pouvais donner l'émotion, une émotion forte au spectateur. Et ça a eu pour moi une fonction très inclusive de la vie.
Au Bénin, ils sont plusieurs comme Vincent à renouer avec leur corps afin de trouver un havre de paix. Abomey Kalavi, Lucrèce, danseuse contemporaine, est en pleine répétition pour son prochain spectacle. Atteinte de blémophobie, une peur irrationnelle des regards, elle danse pour trouver un refuge.
Ce que me permet de faire la danse, c'est surtout d'exprimer tous les non-dits, des choses dont je ne peux pas parler avec tout le monde ou n'importe qui. Et quand j'ai des sujets comme ça enfouis, je les mets dans la danse pour pouvoir les exprimer au travers de ma gestuelle, de mon vocabulaire corporel. Et voilà.
Et ce reportage, Victoire Andrène Ombi, a retrouvé en intégralité sur la page de l'émission. Alors, vous avez 25 ans, lauréate de cette bourse 2024. Qu'est-ce qui vous intéresse particulièrement, Victoire, dans le traitement des questions de santé ?
Alors déjà, il faut savoir qu'au départ, je n'étais pas motivée pour présenter des émissions de santé.
Ouais.
Mais au bout de quelques numéros d'émissions, grâce aux témoignages des victimes ou des malades, j'ai développé ce côté humain en moi. Et j'ai aussi compris qu'il y a autour de la santé plusieurs préjugés ou tabous autour des maladies, surtout celles qui entourent la femme africaine.
Mmh.
Et grâce aux interviews avec les médecins, j'apprends et transmets aux éditeurs et auditrices de cette connaissance pour qu'ils ou elles prennent au sérieux leur santé et surtout que l'automédication est encore un grand problème dans les pays africains, cas du Congo-Brazzaville. Les médicaments de rue, de la rue tuent. Et grâce à Carnet de Santé, j'ai compris que je peux transmettre l'information et pousser aussi en quelque sorte les gens de s'exprimer et de partager leur vécu avec X ou Y maladie.
Alors vous échangez beaucoup, on l'a compris, avec des patients, des citoyens. Pour vous, c'est ça vraiment le cœur de votre métier ?
Oui, vous savez, donner la parole aux personnes qui souffrent, c'est un sujet qui concerne tout le monde, la santé, c'est un sujet très important. On a peut-être tendance à croire que faire du journalisme, c'est aller à la rencontre des artistes, être au quotidien avec des hommes politiques. Chacun est dans son couloir. Il y a ceux qui choisissent de faire la politique, l'économie. Et moi, j'ai choisi de faire la santé. Parce que la santé, c'est un bien universel. On veut voir tout le monde en bonne santé. On veut que tout le monde soit en bonne santé. Et pour cela, être journaliste, surtout en abordant des questions de santé, ça me donne tout aussi de l'importance que les autres.
Ce sentiment d'utilité, métier de journaliste santé, est-ce que vous avez des retours d'auditeurs qui vous expliquent ce qu'ils ont appris, voire ce que ça a pu changer pour eux-mêmes, pour leur bien-être ?
Oui, déjà pour ça, j'avais tourné une émission sur la ménopause beaucoup de femmes ici au Congo-Brazzaville ignoraient ce que c'était la ménopause et comment. Et la ménopause agissait surtout. Et grâce à l'émission que j'avais eu à faire sur la ménopause, je n'avais pas reçu pour cette émission un témoignage. J'avais fait une interview avec une gynécologue. Mais après la diffusion de l'émission, j'ai reçu beaucoup de témoignages, mais vraiment beaucoup. Des femmes ménopausées, des enfants qui ont des mamans ménopausées, et qui, grâce à cette émission, ont su que la ménopause, c'est un état de la santé de la femme, de la vie de la femme qui est tout aussi important. Et ils ont appris énormément de choses. Et grâce à cette émission, ils ont livré beaucoup de témoignages sur nos pages Facebook où ils ont contacté avec le numéro de la radio.
Alors, vous parlez de santé mentale. On a entendu tout à l'heure ce court extrait, justement, qui vous a valu le prix cette année. Cette question de la santé mentale, tout à l'heure, vous avez cité les tabous. Ça en fait partie. Est-ce que ça vous intéresse particulièrement? Et comment vous traitez cette question très, très vaste?
Oui, j'ai choisi de traiter le sujet de la danse comme thérapie parce qu'il souligne un aspect universel de la vie. La santé mentale au Bénin est encore un sujet très tabou. Les Cotons Noirs étaient même surpris d'écouter ce reportage lors de la soirée de remise. Et puis combiner la danse avec la thérapie. Plusieurs personnes n'ont pas les mêmes capacités d'expression. Il y a des gens qui ne préfèrent pas parler de leurs problèmes, comme Lucrèce, par exemple, dans le reportage. Elle a préféré parler de ses problèmes et surtout de sa maladie, la blémophobie, grâce à la danse, à travers la danse, parce qu'elle est danseuse contemporaine. Et au Bénin, il y a des centres de danse thérapie qui accompagnent les personnes qui souffrent. Et après quelques échanges avec des Cotonnois, il y a ceux qui m'ont dit, mais ici au Bénin, si tu es malade mentalement, on te considère comme un fou ou quelqu'un qu'on a jeté en sort.
C'est quoi pour vous les maîtres mots dans l'exercice de votre métier? Le respect, l'utilité, vous iriez chercher quoi aussi dans le vocabulaire?
Oui, je suis partie chercher aussi le respect et la tolérance. Mmh. La tolérance envers ces personnes qui souffrent, la tolérance envers ces personnes qui vivent au quotidien cet état d'esprit. Et ce ne sont pas des fous, ce ne sont pas des personnes qui ont choisi d'être comme ça. Et c'est un état d'esprit, c'est peut-être pour d'autres personnes des maladies, et il faut respecter ces personnes dans la société. Ce n'est pas parce que quelqu'un est malade, quelqu'un n'arrive pas à exprimer ses sentiments, que cette personne est faible. Et à travers ce reportage, je voulais beaucoup souligner aussi l'aspect tolérance, parce que vous vous imaginez dans un centre de danse, il y a des personnes qui arrivent qui sont dans un état d'esprit ou de corps valide. Mais on a le cas de M. Vincent qui est en fauteuil roulant, mais qui a pu trouver sa place dans un centre de danse.
Trouver sa place. Merci beaucoup pour votre témoignage. Et encore bravo, hein, Victoire André Nombi. On se dit à bientôt car vous allez venir dans les locaux de RFI début 2025. 4 semaines de formation. Vous serez bien évidemment la bienvenue chez nous à Priorité Santé. Et notre émission touche à sa fin. Merci à toute l'équipe. Demain, on va parler d'une maladie respiratoire. D'ailleurs, on l'a citée aujourd'hui pendant l'émission. Elle peut être directement liée à la consommation de tabac. C'est la BPCO, bronchopneumopathie chronique obstructive. Journée mondiale dédiée à cette affection redoutable. Prévention, diagnostic, prise en charge. On se donne rendez-vous à 9h10 temps universel. D'ici là, restez à l'écoute de RFI et surtout, portez-vous bien.
C'était Priorité Santé avec Sounou Assurance. Notre métier, l'assurance, et Sounou Banque avec vous à chaque étape.